Radio Campus Bruxelles 92.1.
Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Nous sommes mercredi, si vous nous écoutez en direct, mercredi soir, 19h, l'heure de retrouver La Conspiration des Planches, le magazine critique des arts de la scène à Bruxelles. Avec moi, en studio, nous avons rejoint Catherine et Elisabeth. Bonsoir mesdames.
Bonjour, bonjour.
Et évidemment, donc, repasser l'actualité des scènes, ce sera ce que l'on s'adjoindra donc pendant toute cette demi-heure, en allant tout d'abord du côté du théâtre Les Tanneurs, où Thomas Gunzik va nous frapper avec sa queue. Non, sa queue de cheval, sa queue de cheval, oui, oui. Non. Et avec sa queue, il frappe. C'est le spectacle de Thomas Gunzik qu'on découvrira dans quelques instants. On nourrira l'humanité du côté du théâtre national. Martin Weikart nous emmène pour une trilogie en enfer, ce sera du côté de la Balsamine. Et puis encore un petit oiseau qui ne chante plus, c'est Joyo, le petit oiseau de Gwen Berou qu'on ira voir du côté du théâtre Poème 2. Tout de suite, direction Les Tanneurs. Et avec sa queue, il frappe Thomas Gunzik, chroniqueur radio connu, auteur connu également. C'est pas la première fois qu'il s'attaque au théâtre, bien évidemment. On l'a vu dans les contes Bobo, Héroïco, Urbain. Et également avec Raymond, qu'on a pu redécouvrir avec Yos de Pau récemment au National et au KVS. Et là, il va nous parler de lui, Catherine.
Oui, c'est largement inspiré de son vécu, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, pour qu'il n'y ait vraiment aucune confusion, il n'y a rien de libidineux dans le titre. Et avec sa queue, il frappe, en fait, c'est tiré d'un film La Fureur du Dragon de Bruce Lee. C'est une réplique culte, apparemment, pour les fans de ce genre. Et c'est pas anodin, puisqu'en fait, ce que raconte Thomas Gunzik dans cette pièce, et avec sa queue, il frappe, c'est son adolescence, apparemment pas facile. Un ado un peu isolé, souffre-douleur, un peu seul, qui va trouver le salut dans les films, notamment de Bruce Lee, mais tous les films d'action hollywoodiens, les films d'horreur, Massacre à la tronçonneuse, Evil Dead. Et c'est surtout très drôle, et c'est alors servi par Alexandre Trocchi, qui est formidable d'un bout à l'autre, dans un dispositif pourtant pas facile, puisque la scénographe a imaginé qu'il jouait pendant, ça dure à peu près 1h10, sous la pluie. Donc une pluie, une espèce de bruine, typiquement belge, un crachin qui vient d'un brumisateur au plafond et voilà, et qui lui pleut dessus. Alors il est évidemment dégoulinant de pluie, ce qui ajoute beaucoup à la pièce parce que ça évoque soit l'état un peu dépressif de ce gamin qui se cherche, et ça évoque aussi une ambiance de film d'action dans la brume un peu mystérieuse.
La viscosité du dragon, peut-être.
Ah, peut-être. Bon, on peut y voir beaucoup de choses, en fait, dans cette bruine, dans ce crachin. Et quand même, il a du courage, parce que ça ne doit pas être facile. Il paraît qu'il est bien couvert, il a un mérinos sous ses habits.
Ça ne rétrécit pas, ça, après, quand c'est...
Mais je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'il va tenir la série, parce qu'il va...
Pour revenir à la forme, donc on est dans un seul en scène. Est-ce que c'est une succession d'anecdotes ?
Alors en fait, le point de départ, c'est un personnage qui accompagne son fils à l'école. Et le fils a apparemment quelques problèmes. Il se fait malmener par un certain Kylian. Et donc son père va lui parler de sa propre enfance, sa propre adolescence à l'école, et lui expliquer comment lui s'en est sorti. Mais alors c'est avec l'humour habituel de Thomas Gunzik, c'est vraiment vraiment très très drôle.
Ça pique.
C'est ça, oui. C'est une langue très ludique, très naturelle. Ça, c'est très vivant et plein d'images dont il a le secret. Alexandre Trocchi se retrouve à un moment donné en train de mimer la fécondation d'un vieux spermatozoïde. Et c'est juste hilarant. Et voilà, et c'est plein de références. Alors même si on n'a
si pas
ces références-là, ouais, moi je ne connais pas vraiment Bruce Lee, je ne connais pas tous les films d'horreur. Eh ben, c'est tout à fait accessible et ça donne une couleur.
Il utilise ses références pendant
toute la pièce. Il décrit un petit peu comment un jour, en allant, il voulait aller chercher un journal de Mickey au tabac du coin, et puis il est tombé sur un film d'action de Bruce Lee. Il a pris ça à la place du journal de Mickey et ça a changé sa vie. C'est une belle leçon aussi, je trouve, sur le développement des adolescents.
Un crapaud qui se transforme.
Oui, et puis ça relativise un petit peu les inquiétudes des parents. Finalement, c'est pas parce qu'on a regardé Rambo ou Conan le barbare qu'on va devenir débile. Bien au contraire, quand voit ce que Thomas Gunzig est devenu. et voilà, c'est plein d'humour. C'est joué par Alexandre Trocchi avec des lunettes épaisses comme ça.
Ça ne veut pas parler de harcèlement à l'école ou de choses comme ça. C'est évoqué sans doute
Oui, c'est évoqué, mais surtout pour en parler avec beaucoup d'humour.
Est-ce que ça s'adresse à un public particulier ou si on est parent d'ado et qu'on a besoin de se défouler, c'est le bon endroit
C'est sûr qu'on passera un bon moment, ce sera très édifiant. Mais moi, je ne me sens pas du tout concernée encore, heureusement, par la thématique et j'ai passé un très bon moment. C'est surtout la langue fait, de Thomas Gunzi qui est très, très divertissante. Sans être de la gaudriole, c'est assez fin et ça se laisse regarder.
Rien que pour le titre, on irait quand même.
Voilà, et avec sa queue, il frappe. Donc, une mise en scène de David Strasberg, donc, qui met en scène Alexandre Trocchi. Chaque fois, il est exceptionnel, ce comédien.
Alexandre Trocchi, je ne l'ai jamais vu mauvais. Et là, c'est un sérieux candidat, à mon avis, pour tous les
bon
prix texte, du théâtre
bon
à
comédien.
Venir.
Bon texte, bon comédien et bonne mise en espace aussi. Donc, Marie Cernovitch qui signe la scéno, Thomas Gunzig au texte, David Strasberg à la mise en scène, Alexandre Trocchi à l'interprétation. Et avec sa queue, il frappe, c'est à voir jusqu'au 15 février du côté du théâtre Les Tanneurs, www.letanneurs.be, c'est à 20h30 du mardi au samedi. Tout autre chose maintenant, avec Martine Weikart qui a créé, voici déjà quelques soirs, quelques semaines même, Trilogie de l'Enfer du côté du théâtre de la Balsamine, une habituée des lieux, bien évidemment. Elle va nous parler ici dans cette trilogie de transmission, de lien à l'enfant, de lien aux parents aussi également, au fil de 3 tableaux qui nous sont proposés durant 1h30 de ce spectacle. Alors un premier tableau qui s'ouvre sur un petit intérieur modeste avec une dame d'un certain âge dans son fauteuil. Et on apprend très vite qu'en fait, elle nous parle plutôt de son cercueil, depuis son cercueil où elle observe la cérémonie de ses funérailles. Et là, elle s'attarde surtout sur sa fille, Béatrice, qu'on comprendra très vite que cette Béatrice n'a pas eu une vie particulièrement facile, surtout quand on voit aussi le caractère de la mère qui est en train de s'exprimer. Et ce sera une... Ce ne sera pas vraiment des reproches qui seront adressés, mais une espèce de relation difficile qui nous sera exposée dans une langue à la Martine Weikart, c'est-à-dire qui lorgne sur le métaphysique, qui va parfois très très loin. Il faut être très attentif pour vraiment saisir toutes les nuances, mais il ne faut pas s'arrêter à ça non plus. Il ne faut pas avoir peur, c'est-à-dire que évidemment il y a des choses qui vont nous passer un petit peu au-dessus de la tête, mais on s'adresse parce qu'il y a des anecdotes qui sont racontées et qui sont mêlées dans cette langue très littéraire, très, très belle et qui nous est servie donc dans ce premier volet. Même chose dans le deuxième volet avec une Véronique Dumont qui là interprétera Béatrice, justement. Béatrice, on comprend qu'elle a sombré un petit peu dans l'alcool, dans la dépression, notamment sans doute avec les images parentales qui lui pesaient sur les épaules, la mère, mais c'est surtout à son père qu'elle s'adresse ici. Et on verra aussi que là, la relation n'a pas été simple. Et dans le troisième tableau, ce pourrait être donc la toute jeune Béatrice qui arrive et qui va là alors nous parler dans un texte là purement métaphysique. Physique. On oublie un petit peu peut-être le raccrochement réel ou au concret. On est vraiment plutôt dans ce qu'est la transmission, même quasi notre place dans l'univers, quand on est dans la filiation. Enfin bref, ça part un petit peu, pas dans tous les sens, mais dans beaucoup de choses. Et toute cette pièce est là aussi pour nous parler des conflits de génération, du déni générationnel aussi, c'est-à-dire de ne pas de vouloir des enfants, de ne pas en vouloir, de vouloir quoi leur transmettre, d'avouer qu'on n'a pas su leur transmettre certaines choses. Voilà, ça parle de plein de choses au cours de ces trois tableaux. Alors, mis à part le...
Oui. Il y a une incarnation quand même, parce que tu as parlé de Véronique Dumont, mais elle n'est pas seule en scène.
Non, non. Alors, donc, évidemment, la première, donc, cette mère un peu acariade qui est interprétée par Yvette Poirier, les deux premiers volets, en fait, moi, m'ont vraiment touché par la drôlerie, parce qu'il y a vraiment de la drôlerie qui ressort de ça, mais aussi par l'âpreté aussi de ce qui nous est exposé dans les discours. Bon, cette femme très sèche, là, dans son fauteuil quasi statique, qui est morte, en fait, mais qui nous parle depuis son cercueil, ça en impose. Donc, c'est Yvette Poirier qui accompagne Martine Noëcart depuis pas mal de temps. Véronique Dumont aussi, également, dans cette deuxième partie, parfaite dans cette femme vraiment en totale dépression et en perte de moyens. Et une jeune comédienne, donc, qui termine, je vais rechercher tout de suite son nom, c'est Héloïse Jadoul, qui interprète donc la jeune Béatrice. Alors, si les deux premières parties, donc, comme je le disais, sont dans le concret, c'est également sur scène ce qui se passe. On est d'abord dans ce petit intérieur hein, de maison modeste avec cette vieille femme qui nous parle. Et puis le décor de cette maison va se disloquer, partir vers le ciel, comme ça. Et puis on voit arriver un éléphant qui est en fait Véronique Dumont. c'est un peu l'éléphant, on m'a dit, dans le magasin de porcelaine. Parce
qu'en effet,
elle
n'est pas rose quand même.
Voilà, non, pas du tout. Et puis il y a un piano, un clavecin, il y a des choses qui tombent du ciel. Et puis il y a une très très belle scénographie en fait qui nous parle... qui se rattache aussi de manière un peu abstraitement peut-être à ce qui se dit, mais on sent qu'il y a quelque chose, il y a une ambiance. Par exemple, dans la partie centrale, il y a tous des verres de vin qui sont éparpillés, et il y a un goutte-à-goutte qui tombe du plafond comme ça dans les verres de vin. Il y a au tout début de cette deuxième partie, il y a aussi ce clavecin qui tombe comme ça, et toute de la vaisselle aussi qui se casse et qui se brise là-dessus. On casse de la vaisselle quand on se dispute en famille, paraît-il, hein, parfois. Ouais. Donc, voilà. Et donc, il y a une ambiance dans ce spectacle, avec aussi parfois de la vidéo projetée. Il y a une ambiance, et par le texte, et par l'interprétation, et par la scénographie, qui font qu'il y a des choses vraiment intéressantes, des bons moments. On sent l'humour caustique qui est là. Mais c'est vrai que parfois, ce texte, on aimerait bien peut-être le relire après, plutôt que... Parce que quand on reçoit tout ça, il y a des choses qui nous passent au-dessus et on aimerait aller le rechercher un petit peu.
Ouais, ça illustre les difficultés de la transmission, même au théâtre.
Voilà, donc c'est à voir du côté de la Balsamine, Trilogie de l'Enfer de Martine Weikart, sur le thème de la gavotte avec ses doubles de Jean-Philippe Rameau, c'est le sous-titre pour être complet, c'est à voir jusqu'au 15 février du côté du théâtre de la Balsamine, www.balsamine.be. Un peu de musique et on revient juste après pour une escapade à la campagne.
Voilà.
La conspiration.
De retour dans la conspiration des planches sur Radio Campus qui part à la campagne, esprit rural du côté du Théâtre National avec un programme spécial du spectacle. On en parlera dans quelques instants, mais aussi plein de débats et d'animations autour de ce spectacle. Nourrir l'humanité, c'est un métier, Elisabeth.
Voilà, absolument. C'est incontestablement un métier et le métier du National est aussi de nous proposer un théâtre qui est un théâtre politique, un théâtre dans ce cas-ci documentaire. Alors on peut se demander ce que c'est du théâtre documentaire finalement, et c'est vrai que c'est interpellant ce label parce qu'on n'y a pas trop l'habitude et finalement c'est plutôt agréable parce que là on a une proposition qui nous est faite par un duo de comédiens, donc on a un comédien, une comédienne et qui sont partis faire un travail de collecte de paroles. Donc c'est pour moi, si je devais mettre une étiquette dessus, je dirais plutôt un théâtre de paroles qu'un théâtre de documentaire. Mais ils sont partis, on les voit d'emblée, parce qu'il y a une petite vidéo d'introduction, on les voit d'emblée dans la camionnette avec la caméra au point. On se dit, ah ben ça y est, on est parti pour de la vidéo tout le temps. Et puis non, finalement, on a un premier témoignage filmé et puis ça prend le relais sur le plateau et on a les comédiens qui nous livrent cette parole qu'ils ont été racontés. Et c'est une parole qui est une parole actuelle, c'est une parole qui aborde un sujet qui est un sujet énorme, évidemment, parce que effectivement nourrir l'humanité, c'est pas rien. Ça existe depuis tout le temps. Mais qui sont les agriculteurs et la spécificité ici, c'est que en fait, ce sont les agriculteurs de chez nous. C'est vrai qu'il y a un grand débat nord-sud dans ce type de dossier-là, mais là, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment province du Luxembourg, on est un petit peu en Lozère, et on a cette parole très proche, et cette parole qui nous est rapportée par deux comédiens qui incarnent, je dirais, avec deux francs, six sous, ces agriculteurs qu'ils ont rencontrés, mais surtout avec beaucoup d'empathie et beaucoup de cœur, et probablement une empathie d'autant plus grande que l'un est fils d'agriculteur et qu'il avait, c'est ce qu'il dit d'entrée le jeu, que ça lui portait à cœur, ça lui tenait à cœur de rapporter un petit peu cette vie.
On va les citer, hein, Charles Culot, voilà. Donc acteur et fils d'agriculteur, et Valérie Jiménez, donc actrice et qui a accompagné Charles pour
voilà, et dans ce cas-ci, femme d'agriculteur, parce que oui. L'avenir de l'agriculteur, bah, c'est l'agricultrice, évidemment. Et puis, mais c'est aussi, bien sûr, un théâtre où il y a un contenu. Alors, le contenu est évoqué par Brice. Il y a des chiffres qui passent, je ne les ai pas retenus parce que je pense que c'est aussi un exercice de la sensibilité, mais d'incarnation aussi. On voit un peu la lourdeur de ce quotidien. On comprend bien des phénomènes qui se passent, comme les exploitations qui deviennent de plus en plus grandes, de moins en moins familiales, parce qu'il y a une course aux primes, etc. Mais c'est exprimé très simplement, puisque c'est exprimé par les gens qui le vivent avec leur logique à eux, et on rentre dans cette logique. Et finalement, ce qui en résulte, c'est beaucoup de sensibilité. Et en même temps, on n'est pas frustré côté théâtre parce qu'il y a ce jeu-là, mais qui est très subtil et voilà, des toutes petites choses, très très peu d'artifice. Enfin, il y en a deux, trois, mais vraiment.
Comment ça se passe sur scène ? Donc, tu parlais de la vidéo et puis il nous parle comment, dans quel dispositif ?
Alors, il nous parle dans un dispositif qui est odorant, puisque il y a de la terre, il y a la terre, il y a quelques ballots de paille, enfin, il y a quelques petites choses comme ça, c'est un peu une esquisse. Et puis, il y a une table avec cette immuable toile cirée qu'on peut imaginer dans nos fermes, évidemment. La toile cirée à carreaux, elle est là. Et finalement, ça nous suffit. Et il y a aussi se parler, finalement, parce que il y a une langue qui se dégage. Les agriculteurs, c'est un monde qui se tient un peu les coudes, qui vit un petit peu. C'est vrai qu'une des choses qui est dite aussi, c'est l'immense fossé qui est en train de se creuser entre ce monde rural et agricole et le monde des villes. C'est presque deux planètes. Et ils ont leur langue, ils ont leur syntaxe, ils ont des mots qui ne sont presque plus que les seuls à utiliser.
C'est tout à fait paradoxal, hein, quand on voit aussi les initiatives vertes qu'on découvre dans les villes, mais qui sont complètement... enfin, détachées ou en tout cas qui ne se relient pas automatiquement à ce qui se passe quelques kilomètres plus loin, donc quand on sort du tissu urbain.
Et c'est vrai que ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait de très très beaux mots dans leur langue, qui ne sont pas des mots qu'on met en SMS, là, parce qu'ils sont 10 fois trop longs. mais voilà, donc il y a vraiment cette parole au sens très noble du terme et qui est très touchante. Et voilà. Et puis bien sûr, il y a toute une batterie d'ONG qui sont là, il y a les débats qui sont là, il y a la volonté de faire bouger les choses. Et c'est vrai que le théâtre, et ce théâtre documentaire, ce théâtre politique et poétique à la fois, trouve toute sa place.
Oui, on craint hein, parfois, nous aussi, quand on voit ça, que ça soit à thèse, lourd trop démonstratif. Ici, ils ont su donc... en tout cas, emmener ça dans le poétique.
Oui, pas du tout. Et puis, je pense que l'apport et l'ajout du théâtre, c'est justement de pouvoir transmettre une émotion et dans cette capacité énorme de partage qu'on peut avoir d'une émotion. Ça dit tellement plus que des bouquins et des kilos de chiffres, évidemment.
Nourrir l'humanité, c'est un métier, un thème et donc un spectacle à découvrir au Théâtre National. C'est à voir jusqu'au 15 février, également dans la salle Jacques Huysmans. Alors, toutes les représentations sont suivies d'un débat. Les thématiques diffèrent tous les soirs. Vous pouvez aller voir sur le site du Théâtre National, www.théâtrenational.be.
Voilà, et le 8 février, là, c'est la grande messe.
Oui, c'est la grande conférence avec Olivier de Schutter, rapporteur du programme
Mais des ministres aussi. Hein, quand même.
Et des ministres, donc, du beau monde à découvrir ce samedi du côté du Théâtre National.
Je pense,
National.
Dégustation.
Ah, encore plus.
Si
encore.
Je me trompe
Mais je
pas.
Crois que tous les soirs, en tout cas, il y a un buffet ou en tout cas des spécialités
Mais en tout cas,
de
le
chez
spectacle
nous.
Se laisse manger sans de bon appétit et avec plaisir.
Voilà, une création collective. C'est aussi labellisé Nouvelle Vague, le programme de découverte de talents du Théâtre National. Il y a quelques semaines, on vous parlait de François Emmanuel qui se voyait consacrer deux seules en scène écrites par lui du côté du Théâtre Poème 2. On parlait de contribution à la théorie générale. Et ici, on retrouve Gwen Berroux dans Joyau ne chante plus. Une dame dans son appartement qui pleure son canari mort, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. Tu as complètement résumé la pièce. Alors, il faut dire tout de suite, ce n'est pas pour tous les publics. Moi, quand je l'ai vue, il y en a clairement une partie qui s'est ennuyée. Moi, j'ai adoré. C'est une langue magnifique, mais une langue pas facile. Donc,
c'est une langue littéraire qu'on trouvait déjà dans théorie. Moi, j'ai vu le texte. Et le texte est encore plus particulier, je trouve, dans Joyau ne chante plus.
Oui, c'est une divagation, oui. En fait. Et il faut s'y accrocher. Mais heureusement, c'est porté par Gwen Berroux. Et elle incarne ce texte avec une force et une présence qui font qu'on est accroché à tout ce qu'elle dit. La scénographie est très sobre, très sombre. Un bout d'intérieur, un bout de cuisine, et puis un fond avec des petites figurines. Ça reste très énigmatique. Et alors Gwen Berroux est surtout impressionnante quand elle passe d'un personnage de vieille femme aigrie qui pleure en effet son canari qui vient de mourir et qui raconte comment ce canari a pour elle été un tremplin à ses rêves, à des fantasmes de voyage, et puis aussi un prétexte pour se souvenir d'amour passé. Et quand elle se souvient de ces amours-là, et ben, tout à coup, elle devient une jeune femme pleine de désirs. Et c'est ces nuances entre ces deux personnages qui sont... comment elle se métamorphose, ça, c'est juste sidérant.
On peut imaginer ça avec la plasticité de Gwen Berroux dans son dernier spectacle. Je ne sais plus comment il s'appelait, mais où elle tombait.
Fall into the show.
Oui, voilà. Il y avait aussi ce côté, ce corps qui est omniprésent et qui raconte beaucoup.
Et ben voilà, c'est encore une sacrée valeur ajoutée ici dans Joyau ne chante plus. D'ailleurs, il y a des tout petits morceaux de danse.
Mais elle vient de là, de la performance.
Oui, mais en même temps, c'est un seul en scène et c'est un texte hyper dense avec des mots, des néologismes à tous les coins de phrase.
Mais ce texte, ça parle quoi du temps qui passe, de la vieillesse, de la solitude
De tout ça.
De tout ça.
De tout ça. On comprend aussi qu'elle est un petit peu cernée par ses voisins, qu'elle attend la visite d'un huissier. On ne comprendra pas toujours tout et pourquoi.
Et l'urgence, en fait.
Oui, c'est ça. Et puis, on prend le temps, justement. Elle prend le temps de nous raconter tout ça avec des mots très charnels, je trouve. C'est vraiment une langue magnifique, une langue rugueuse et poétique à la fois. Une langue vraiment étonnante, franchement. Il faut aller la découvrir. Mais il faut savoir que c'est pas, on n'y va pas pour se divertir, se reposer, mettre son cerveau.
Ça demande de l'attention, un peu comme donc le texte de Martine Weicker tout à l'heure. Ouais. Mais j'avais ressenti ça aussi quand j'avais été voir donc contribution à la théorie générale. En effet, il y a des moments inévitablement on lâche, mais il y a aussi cette force dans ce texte qu'on peut aller le récupérer et se retrouver encore avec ce personnage qui nous est confié. Mais c'est assez beau.
Et puis la mise en scène de Pascal Crochet, quand même, l'a souligné, qui apporte beaucoup aussi.
Voilà, mais il faut se laisser toucher, en fait.
Il faut se laisser emporter.
Voilà. C'est à voir donc cette semaine du côté du Théâtre Poème 2. Je vous l'avais déjà expliqué l'autre fois, les deux spectacles en fait s'alternent une semaine sur l'autre, on va dire comme ça. Et c'est jusqu'au 23 février pour les deux spectacles donc qui nous accompagnent encore jusqu'à la fin du mois du côté du Théâtre Poème 2, www.théâtrepoème.be. Il nous reste 3 minutes pour quelques petites annonces. Allons au cirque, Catherine.
Oui, alors si vous voulez découvrir le nouveau cirque, il faut aller aux Halles pour le festival Hors Piste qui dure tout de même quelques mois.
Quelques semaines en tout cas.
Oui, non, du 7 février au 22 mars.
Deux mois.
Donc largement le temps de découvrir plein d'artistes belges, mais pas seulement. Alors voilà, tu parlais de spectacles tirés par les cheveux, c'est le cas de Capillotracté. De deux artistes finlandaises, mais qui ont été formées en France, qui viennent de disciplines différentes, l'une du trapèze, l'autre qui est fil de feriste. Et elles se sont rencontrées autour d'un projet, autour d'une ancienne technique circassienne où on fait des acrobaties tirées par les cheveux.
Voilà, alors... elles sont de mèche en tout cas.
Oui, joli. Et c'est tout à fait passionnant parce que tout ça parle de l'image de la femme, parce qu'on pourrait se dire, oui, ok, il y a une prouesse, c'est sûr. D'ailleurs, c'est drôle de voir les gens grincer comme ça. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de souffrir pour elles quand on voit toute leur chevelure attachées dans une boucle et elles sont vraiment tirées par leurs cheveux. D'ailleurs, on apprend plein de choses intéressantes sur le cheveu, notamment le fait que toute une chevelure peut supporter jusqu'à 15 tonnes.
Oula.
Oui, donc
ça, ça veut dire que le spectacle parle ou c'est juste dans le mouvement?
Non, c'est, tout est dans le mouvement, mais avec des images qui évoquent plein de choses. D'accord. Alors les cheveux, évidemment, ça évoque la féminité. Il y a Frida Kahlo, par exemple, ouais. qui évoquait, qui mettait elle-même ses cheveux en scène dans ouais. ses tableaux. Voilà, ça parle de plein de choses. C'est très rock'n'roll, c'est décalé. Ça dépasse très vite la technique des cheveux pour aller vers plein de tableaux poétiques et décalés. Et puis vous pourrez découvrir Chloé Moglia, Alexis Rouve, La Rousse Paroquette, plein de, d'artistes passionnants qui vont bouleverser les clichés sur le cirque.
Et très vite, encore une fois, on va peut-être aller donc du côté des Beaux-Arts qui accueille une pièce grecque pour la présidence européenne. Toute une série d'événements sont organisés culturels. Le Blitz Theater, Catherine.
Oui, qui vient avec Late Night que j'ai vu à Lille. Un drôle d'objet, assez passionnant je trouve, parce que ça parle de la crise grecque et de la crise européenne en général, sans jamais la nommer. Alors le point de départ, c'est juste, je ne sais plus, ils sont 6 ou 7, sur ce qui ressemble à une piste de danse, mais au milieu des décombres. On imagine qu'il y a une guerre qui est passée par là. Et puis ils sont entraînés dans des valses. Et puis entre les valses, ils viennent au micro et ils se confient et ils se souviennent. Et on pioche comme ça des moments, des souvenirs de guerre. Et on comprend qu'on est à la fois dans le passé et dans le futur. Ça parle de plein de choses sans jamais vraiment les nommer.
Ça parle en quelle langue alors ?
En grec surtitré.
Ce sera les 7 et 8 février ouais. du côté du Beaux-Arts, www.beauxarts.be. Merci Catherine, merci Elisabeth.
Bonne semaine.
Et à la semaine prochaine pour d'autres planches. Les programmes évidemment sur www.radiocampus.be et le podcast sur Demandez le Programme. Très bonne semaine à vous et à bientôt. Constelación.